France Culture.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'Esprit Public. Aujourd'hui, la Turquie d'Erdogan, de l'autoritarisme à la dictature, et la défense européenne est-elle en ordre de bataille ? Nos débatteurs ce dimanche, Bertrand Badi, bonjour.
Bonjour.
Professeur en relations internationales, votre dernier ouvrage chez Flammarion, L'art de la paix. Laetitia Stroche-Bonnard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes essayiste, votre dernier livre, lui, est sorti aux éditions de l'Observatoire, La gratitude, récit politique d'une trajectoire inattendue. Sylvie Kaufmann, bonjour.
Bonjour, Hervé.
Vous êtes éditorialiste au Monde. Les aveuglés, comment Berlin et Paris ont laissé la voie libre à la Russie, ça a été publié chez Stock. Et François Gemène, bonjour.
Bonjour à tous.
Spécialiste migration et climat, vous êtes président du conseil scientifique de la Fondation pour la Nature et l'Homme et je le rappelle à chaque fois désormais, co-directeur de l'Observatoire Défense et Climat au ministère des Armées. Alors dans la deuxième partie de l'émission, nous parlerons défense européenne, justement à l'occasion du deuxième sommet de la coalition des volontaires pour l'Ukraine. Une trentaine de pays réunis jeudi dernier à Paris sous le copilotage du président français et du premier ministre britannique. Alors la défense européenne est en ordre de bataille, nous en débattrons. Mais pour commencer, la Turquie, où les partisans du maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, se sont rassemblés en masse hier, des centaines de milliers de personnes, pour soutenir le leader de l'opposition emprisonné et pour dénoncer l'arbitraire du régime du président Erdogan.
Je suis venu soutenir Ekrem İmamoğlu et tous ceux qui ont été injustement jetés en prison. Et c'est pourquoi je suis venu signer. Mais ça va au-delà d'İmamoğlu. C'est une question de démocratie. C'est ça qui compte. L'arrestation d'İmamoğlu, c'était la ligne rouge à ne pas franchir.
Les plus remontés scandent Tayyip démission comme ce grand-père.
On est venu protester contre Tayyip pour le droit, la loi, la justice. Regarde, c'est mon petit-fils. Je suis venu pour défendre ses droits. Je n'ai pas peur. Ils peuvent venir me chercher ici pour me mettre en prison. Je n'ai pas peur. Nous allons continuer notre résistance jusqu'à la fin. Il n'y a pas de retour en arrière.
Il y a un an, presque jour pour jour, une partie de l'électorat turc célébrait la victoire de l'opposition lors des municipales. Le CHP, le Parti Républicain du Peuple, d'inspiration kémaliste, réussissait l'exploit de remporter la plupart des grandes villes en Turquie et plus encore de devancer en nombre total de voix le parti au pouvoir, un peu moins de 38% des voix pour l'opposition, un peu moins de 36% pour l'AKP, la formation du président turc Recep Tayyip Erdogan. Après des années de dérive autoritaire, consistant à contrôler les médias, nommer des juges aux ordres, emprisonner des intellectuels critiques, réprimer les manifestations. Après donc ce long glissement illibéral du régime, la Turquie semblait faire un début de machine arrière. Le déclin de la démocratie est enfin terminé, proclamait même le maire reconduit d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu. Un an plus tard, le même İmamoğlu est en prison. Le principal rival d'Erdogan a été arrêté à son domicile le 19 mars, puis incarcéré pour corruption. De nombreuses manifestations ont suivi pour dénoncer une décision arbitraire, et vous venez de l'entendre dans ce reportage de Marie-Pierre Véraud. Ils étaient des centaines de milliers hier à se rassembler à Istanbul à l'appel du CHP, le parti du maire de la ville, en dépit des nombreuses arrestations auxquelles a procédé la police turque ces derniers jours. Alors un cap a été franchi par celui qui dirige la Turquie depuis plus de 20 ans, d'abord comme Premier ministre, puis comme président. Adepte de la concentration des pouvoirs, Recep Tayyip Erdogan n'était jamais allé jusqu'à remettre en cause de manière aussi brutale le résultat des urnes. Les élections restaient relativement libres jusque-là dans le pays. Alors pourquoi ce durcissement et pourquoi un an après ? Eh bien parce que le monde n'est plus le même. Un nouveau président américain notamment est passé par là. Et comme on peut le lire dans le magazine L'Express de cette semaine, pour Erdogan, le retour de Trump au pouvoir est une bénédiction. Ses coups de boutoir incessants contre les institutions, sa guerre contre les contre-pouvoirs, ont sans doute convaincu le Raïs que le moment de frapper était venu. Trump, c'est sûr, ne lui donnera pas de leçon de démocratie. On pourrait ajouter, qui est disposé à lui donner une telle leçon aujourd'hui ? Bertrand Badi, c'est peut-être d'abord la population turque et toutes celles et ceux qui ont manifesté hier à Istanbul.
Oui, et d'après les statistiques, alors évidemment des manifestants, on en était à 2 200 000, ce qui est absolument énorme pour une manifestation urbaine. C'est probablement en dessous, mais ça ne doit pas être tellement en dessous. Et première remarque, qui peut paraître paradoxale, mais qui ne surprendra pas les spécialistes de la Turquie, ceux qui connaissent bien ce pays. Le pays a une très ancienne et forte culture politique et démocratique. C'est un des pays où le niveau de participation électorale est structurellement le plus élevé. Empêcher ou dissuader un Turc d'aller voter, c'est un drame. Donc il y a là déjà une tension qui est perceptible. Alors, plusieurs éléments. Premier élément, bien sûr, le contexte international favorise. Vous l'avez dit, Trump, évidemment, c'est idéal pour ce sursaut illibéral. Mais il n'y a pas que les États-Unis et les changements qui s'opèrent aux États-Unis. Il n'y a pas seulement ce climat illibéral qui banalise ce genre de comportement. Il y a aussi, côté européen, un désir de Turquie. C'est-à-dire l'Europe considère, à tort ou à raison, qu'elle a besoin de la Turquie dans son effort de réarmement, et ce n'est pas le moment de critiquer le leader turc. Donc, il y a une sorte de consensus. Peut-être que le pape François dira autre chose, mais à part ce chef d'État, je n'en vois pas qui ait véritablement intérêt à s'exprimer. Si bien qu'on vit une crise qui a pour caractéristique majeure d'opposer l'international à l'interne. L'international favorise le travail d'Erdogan. L'interne, c'est tout autre chose. Je faisais référence à cette culture démocratique. Il ne faut pas oublier que même dans l'histoire de ce régime aux teintes autoritaires, on n'a jamais été si loin dans le déni de l'opposition. Lorsqu'il y a eu le coup d'État militaire ou la tentative de coup d'État en juillet 2016, Erdogan avait au contraire essayé d'associer l'opposition du CHP, du Parti Républicain du Peuple, à sa cause. C'est-à-dire, l'opposition était associée. Là, c'est pourchassé.
Avec un certain nombre de purges quand même, hein, dans l'armée.
Mais il avait pris bien soin de ne pas associer à cette répression le Parti Républicain du Peuple qui était plutôt proche de l'armée et qui aurait pu cette occasion lui donner la possibilité d'intervenir pour museler ou en tous les cas saper son opposition. Là, véritablement, cette opposition, elle est défiée, mais je suis pas sûr qu'il va réussir. Parce qu'il y a quand même deux éléments à prendre en compte. Il y a une crise économique sévère en Turquie, inflation, défaut d'investissement, la situation se détériore et se dégrade, et il y a en même temps une mobilisation très forte. N'oubliez pas que İmamoğlu a été arrêté au moment où 15 millions de Turcs, dans une primaire pour désigner le candidat à la future élection présidentielle, se sont déplacés pour voter pour lui. Donc, ce n'est pas du tout à négliger. Et bon, vous connaissez mon obsession. Je crois que le social court plus vite que le politique, et surtout que le politique international. Et je pense qu'il sera rattrapé, comme au temps de Gazi en 2013. Rappelez-vous des mobilisations dans le parc de Gazi. Il sera rattrapé par une opinion publique, une société qui n'a pas l'habitude de se laisser faire. Même si c'est plus une opinion urbaine que rurale. Hein. C'est vrai que la Turquie des champs est plutôt encore favorable à Erdogan.
Mobilisation du parc de Gazi, hein, c'était à Istanbul hein, déjà, donc il y a une douzaine d'années. Laetitia Strojbonar, est-ce qu'un cap quand même a été franchi par le président turc Erdogan en s'en prenant justement à un processus électoral, c'est-à-dire en emprisonnant son principal opposant, qui doit être son rival lors de la prochaine présidentielle. Enfin, si tant est qu'Erdogan se présente, alors là aussi, on va peut-être en parler, mais il va falloir un peu triturer les règles constitutionnelles turques. Et comment est-ce qu'on peut qualifier aujourd'hui le régime en Turquie? Est-ce que c'est encore une démocratie qui serait illibérale ou est-ce que ça n'est plus une démocratie?
Eh bien, je pense que la Turquie est en train de sombrer dans une forme d'autoritarisme, mais je le qualifierais donc à la façon dont le fait un chercheur de Harvard qui s'appelle Steven Levitsky, comme un autoritarisme compétitif. En fait, c'est un concept qu'il a proposé il y a une vingtaine d'années pour décrire des systèmes dans lesquels il y a des élections. Les partis sont en concurrence pour ces élections, mais une fois que l'un des partis est au pouvoir, eh bien, ce parti fait tout pour que l'opposition ait de moins en moins voix au chapitre pour intimider non seulement l'opposition, mais aussi la presse, les intellectuels, enfin tous ceux qui ne sont pas d'accord. Et donc ça crée forcément un jeu de la démocratie faussée, puisque aux élections suivantes, eh bien l'opposition arrive avec beaucoup moins d'atouts que le parti en place. D'ailleurs, ça n'est pas le seul pays aujourd'hui à être dans cette situation d'autoritarisme compétitif. Et bon, certains, comme la Russie, ont sombré dans l'autoritarisme pur et simple. Donc, ce qui est assez inquiétant, c'est que on est peut-être simplement au début d'une évolution. Après, bon, peut-être que Bertrand Badi a raison, je l'espère. La société civile se montrera peut-être suffisamment solide pour résister à ce mouvement. Alors, ça ne s'est pas fait en un jour. En fait, ce qui est assez frappant aussi, c'est quand on regarde l'évolution de la démocratie en Turquie depuis une vingtaine d'années, on voit que ça s'est lentement détérioré. Il y a un indice qui est très, très intéressant en la matière, qui s'appelle le Global Democracy Index, donc l'index démocratique global ou mondial, qui est fait par The Economist, enfin par The Economist Intelligence Unit, qui est un centre de recherche associé à ce média, et qui montre qu'en 20 ans, il y a eu une dégradation de l'état démocratique du pays. Alors, les pays sont notés sur 10. En 2006, la Turquie était à 5,7, c'était déjà pas extraordinaire.
La bonne note, c'est-à-dire c'est une démocratie quand on est à 10, d'accord.
La France, par exemple, aujourd'hui n'est même pas une démocratie complète, hein, selon ce classement. La France est une démocratie défectueuse, les États-Unis aussi. Et la Turquie a perdu 1,5 point, puisqu'en 2024, elle est à 4,26. Donc c'est une mesure parmi d'autres, on pourrait mesurer différemment. Mais ça montre quand même qu'il y a un lent déclin. Et dans le monde entier, l'idée démocratique et la pratique démocratique est en déclin, et surtout d'ailleurs en Asie. Donc c'est l'Asie aujourd'hui qui se tourne de plus en plus vers l'autoritarisme, avec aussi un grand point d'interrogation pour l'Occident, qui est la situation des États-Unis.
François Gemène, ce glissement progressif vers l'autoritarisme qu'on voit en Turquie, il a évidemment des spécificités liées à ce pays, mais il s'inscrit aussi dans un mouvement plus global.
Oui, indéniablement, il s'inscrit dans un mouvement plus global, effectivement, d'une sorte de tentation vers l'autoritarisme. Cela étant dit, depuis 20 ans que Recep Tayyip Erdogan est au pouvoir, j'ai l'impression que tous les 3 ou 4 ans, nous alarmons d'une nouvelle dérive autoritaire de la Turquie. Alors, un coup c'est contre la presse, un coup c'est contre l'opposition, puis c'est contre les universitaires, puis c'est contre les Kurdes, mais on a l'impression malgré tout que ça revient à intervalles réguliers, et puis qu'il y a un signal positif qui est envoyé par Ankara. L'année dernière, c'était les élections locales qui avaient été remportées par l'opposition et qui s'étaient plutôt bien passées, et donc tout le monde y a vu une sorte de reflux de l'autoritarisme et un progrès vers la démocratie.
On avait même fait une émission à ce sujet qu'on avait intitulé, enfin que j'avais intitulé « Est-ce que c'est le début de la fin pour Erdogan ?» La réponse un an après...
Et nous y croyons sans cesse. Et nous avons sans cesse la naïveté d'y croire, alors qu'à l'évidence, on est dans une sorte de mouvement de balancier où le président turc joue un peu le chaud et le froid. Et très clairement, si nous ne faisons jamais rien, c'est parce que nous avons besoin de la Turquie. Et parce que personne ne souhaite qu'il y ait en Turquie des foyers d'instabilité. Et donc nous nous accommodons quand même, bon gré mal gré, du président Erdogan. Je pense que peut-être ce qu'il est intéressant de se demander, c'est pourquoi maintenant ? Parce qu'effectivement, il y a le contexte international et on peut se dire, voilà, les outrances de Trump aux États-Unis font que peut-être il se dit que ça passera relativement inaperçu. Mais il y a un autre élément qui me paraît important et dont nous n'avons pas encore parlé, c'est la décision du PKK, donc le parti kurde, il y a quelques semaines, de déposer les armes. Or, jusqu'ici, les principales dérives autoritaires du pouvoir turc, c'était pour lutter contre le PKK. Et donc, on mettait en place des lois liberticides, on arrêtait des opposants soupçonnés d'être liés à des mouvances terroristes liées elles-mêmes au PKK. Ici, on a l'impression que ce motif disparaît et que donc il faut en chercher un autre et que donc on va chercher des motifs de corruption chez des opposants locaux. Il y a sans doute beaucoup à creuser. Je pense qu'on n'a pas le fin mot de savoir pourquoi maintenant.
À propos alors d'ailleurs du PKK, il faut signaler qu'il y a un journaliste suédois qui a été arrêté à son arrivée à l'aéroport il y a 48 heures et à qui donc il arrive à l'aéroport à Istanbul et à qui la justice, enfin les autorités on va dire turques reprochent justement d'avoir participé à une manifestation en faveur du PKK, donc du mouvement kurde, à Stockholm et donc qu'il a inculpé et incarcéré pour terrorisme. Donc peut-être que c'est moins un argument en interne en Turquie, mais ça reste encore un argument pour emprisonner notamment des journalistes, en l'occurrence un journaliste étranger. Sylvie Kaufmann, si Erdogan s'est senti autorisé à procéder donc à cette arrestation de son principal opposant, c'est parce qu'il y avait une forme de sentiment d'impunité qui se développe aujourd'hui avec ce qu'on a dit depuis le début de l'émission, le fait que les Européens aient du mal à s'en passer, et puis aussi peut-être parce que la Turquie comme membre de l'OTAN est peut-être le pays qui se rapproche le plus de ce que pense aujourd'hui Donald Trump par rapport à la façon de gouverner.
Oui, juste une chose sur les journalistes, comme souvent dans ce genre de situation, les journalistes sont particulièrement ciblés. Vous avez cité ce journaliste suédois qui a été arrêté, il y a un journaliste de la BBC qui a été expulsé, et puis il y a surtout beaucoup de journalistes turcs qui ont été emprisonnés. Sur votre question, moi je crois qu'il y a plusieurs facteurs, mais il y a quand même une tendance lourde. Erdogan est au pouvoir depuis plus de 20 ans. Et ce qu'on voit, c'est que c'est ce qu'on appelle ces hommes forts qui sont au pouvoir, ces tenants d'un certain autoritarisme. Plus ils sont au pouvoir et plus ils s'y accrochent et plus ils veulent le garder. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit dans plusieurs pays. Regardez Poutine, qui est aussi là depuis, lui, 25 ans. Il y a une sorte de parallèle, d'ailleurs, avec les différences évidemment qui sont celles de la Russie et de la Turquie et des sociétés comme a mentionné Bertrand Badie, ce sont deux sociétés très différentes dont l'une est plus active que l'autre. La Turque est plus active que la Russe, mais on voit un parallèle dans leur évolution autoritaire, c'est-à-dire il y a des paliers qui sont franchis, il y a de temps en temps un gros mouvement populaire et hop, la répression punit ce mouvement et le dirigeant en profite pour raffermir son pouvoir. Et on a vu ça sur Erdogan et je crois que là, Laetitia parle de cette notion d'autoritarisme compétitif, c'est justement là, quand on parle de la ligne rouge qui est franchie, on entend beaucoup aussi, c'est l'expression « il a franchi le Rubicon », c'est la partie compétitive qui est supprimée. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on trouve qu'il y a un tournant en ce moment dans cette situation turque? C'est parce que, oui, il y avait une tendance lourde vers l'autoritarisme, le contrôle des institutions d'État, les purges que vous avez mentionnées qui ont été faites dans l'appareil de la justice, de la police, de l'armée. Mais il y avait toujours cet espace un peu électoral qui, tant bien que mal, parce qu'on peut pas dire que c'était vraiment des élections libres et justes, comme on peut les concevoir dans une démocratie libérale, mais il y avait une sorte de compétition qui avait lieu. Et c'est grâce à ça que İmamoğlu a pu être élu et réélu de manière très très nette.
S'il n'y a plus de compétition aujourd'hui, ça s'appelle une dictature, non?
On va voir ce qui se passe maintenant. Mais le fait est que, vous savez, Erdogan a dit plusieurs fois, celui qui tient Istanbul tient le pays. Donc, il voyait bien que ce maire d'Istanbul qui avait très bien qui s'était imposé à la tête de cette métropole et dont le parti s'était imposé aussi pas seulement dans les grandes métropoles de Turquie, mais aussi dans des tas de villes qui étaient avant des bastions de l'AKP, était vraiment une menace pour son pouvoir personnel. Et donc là, vraiment, il a réagi parce que le pouvoir risquait de lui échapper avec cette menace que représente İmamoğlu, qui était une menace qu'il n'avait pas eu à affronter avant avec une opposition plus divisée et des personnalités qui étaient moins marquantes et moins puissantes que İmamoğlu. Et juste pour terminer sur la question que vous m'avez posée en réalité sur le contexte mondial et européen. Alors c'est vrai qu'il y a bien sûr Trump qui favorise toute une série de dictateurs ou de d'hommes forts. On voit avec Kagame, on voit avec Netanyahou, Poutine, etc. Mais il y a aussi cette situation que, donc, nous allons parler plus tard avec l'Ukraine en Europe et qui fait que la Turquie est un élément important. La Turquie participe à ces réunions que nous avons en ce moment, tous ces sommets internationaux. Elle contrôle la mer Noire. Voilà, c'est une puissance dont on ne peut pas complètement s'abstraire dans le contexte international actuel.
Oui, parce qu'on va parler dans un instant de cette coalition des volontaires qui était en sommet jeudi à Paris. Le vice-président turc représentait la Turquie lors de cette réunion. Bertrand Badie.
Oui, moi je pense que les tentations autoritaires interviennent souvent lorsque l'on est face à des crises fortes de repères. Lorsque les repères sont clairs, les alignements sont évidents, la surenchère autoritaire ne sert pas à grand-chose. Or là, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a au moins 3 repères qui ont été bousculés ces derniers mois en Turquie. Premier élément, L'AKP face au CHP, c'est l'islamisme plus ou moins modéré face à un laïcisme d'héritage kémaliste. Mais il faut regarder de près ce personnage qu'est İmamoğlu. İmamoğlu n'est pas un laïc. İmamoğlu est en situation, par ses référents explicites à l'islam et à la religion, de capter une part de l'électorat AKP. C'est un candidat qui n'est pas du tout favorable à Erdogan parce que il est transfrontière en quelque sorte et il sait miser sur les deux ressources, laïque et religieuse. Donc il faut l'éliminer. Ça, c'est un premier élément. Vous signalez la question kurde. La question kurde, c'est une véritable boussole dans la vie politique turque. D'abord, moi je constate que il y a des tentatives de solution de la question kurde qui échoue dès lors qu'il y a une crise politique intérieure en Turquie. La dernière tentative de rapprochement avec Öcalan, le leader du PKK, a été interrompue par la mobilisation de Gazi, du parc Gazi dont on parlait tout à l'heure, en 2013. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ça chauffe, eh bien, il faut rétablir le Kurde comme étant l'ennemi à combattre et faire l'union sacrée contre lui. Et d'ailleurs, il est tout à fait intéressant d'écouter Erdogan disserter sur İmamoğlu en disant « mais il abrite dans sa mairie des terroristes kurdes ». C'est-à-dire que on voit Erdogan remobiliser l'épouvantail kurde parce qu'il sait que c'est une façon pour lui de conserver son électorat et de gagner, de jouer de la fibre nationaliste. Et donc la dilution de la question kurde est quelque chose qui manifestement rassure et inquiète en même temps Erdogan. Et le troisième point de repère, c'est qu'évidemment, Turquie est indispensable à tout le monde, c'est-à-dire les États-Unis, c'est-à-dire l'Europe, c'est-à-dire le Sud global, c'est-à-dire les BRICS, etc. C'est l'ami de tout le monde, c'est le polyamour diplomatique absolu, hein, Erdogan, on est en plein dedans, n'est-ce pas ? Mais finalement, ça ne lui a pas servi. Ça ne lui a pas servi parce que on s'aperçoit que sur la question russo-ukrainienne, on préfère s'adresser à MBS, à l'Arabie Saoudite, plutôt que la Turquie. Parce que face à la Syrie, où on a dit trop vite que c'était Erdogan qui avait tout manœuvré, ben on s'aperçoit que Al-Shara commence par augmenter les taxes de 200% sur les produits qui viennent de Turquie et que les choses ne se passent pas si facilement, et notamment dans la gestion des territoires nord de la Syrie, parce que face à Israël, il ne sait plus comment s'en sortir. Donc, il y a au moins une triple crise qui fait que un petit coup d'autoritarisme, dire « vous, Turcs, vous avez besoin d'un vrai leader et je suis le nouveau père de la Turquie hein, », c'est une stratégie qui a son sens.
Alors, il y a cette situation intérieure en Turquie. Alors, on l'a dit, la Turquie, elle est indispensable, notamment aux Européens, hein, François Jomène. Mais est-ce que l'Europe n'a pas aussi des moyens de pression ? Depuis quelques semaines, le président turc recommence à parler d'une possible éventuelle adhésion de la Turquie à l'Union européenne, puisque le processus n'a toujours pas été stoppé. Est-ce que ça peut être une espèce de levier, de moyens de pression de l'Europe sur la Turquie, ou bien est-ce que c'est...
Sincèrement, je n'y crois pas. Je pense que c'est surtout la Turquie qui a des moyens de pression sur l'Europe. Il faut se rappeler que depuis 2016, la Turquie abrite, pour le compte de l'Europe, plus d'1 million de réfugiés syriens, que nous continuons chaque année à débourser des milliards d'euros en échange du fait que la Turquie accepte de les garder sur son territoire et de les empêcher de franchir la mer Égée. Et donc, très clairement, c'est plutôt la Turquie qui a des moyens de pression sur l'Europe. Et on se rappelle d'ailleurs qu'à une ou deux occasions, lorsque le président Erdogan n'était pas content d'une position européenne, il a menacé d'ouvrir les portes et d'envoyer les migrants à la mer. Et donc, très clairement, je pense que l'Union européenne n'a guère de moyens de pression sur la Turquie, d'autant plus que je ne suis pas sûr que cette adhésion pro-européenne soit largement partagée par la population turque. Je pense que beaucoup de Turcs en ont marre d'avoir été menés en bateau pendant des années et des années et ont abandonné complètement l'idée de rejoindre un jour l'Union européenne. Par contre, là où nous devrions en Europe être attentifs, c'est au fait qu'à mon avis, d'ici quelques mois, nous risquons de devoir organiser une émission très semblable à celle-ci sur l'emprisonnement du maire de Budapest, Peter Maghiar, qui se trouve dans exactement la même situation par rapport à Viktor Orban.
Et là, ce sera une affaire directement interne à l'Union européenne. Laetitia Strojbonner, ensuite Sylvie Kaufmann. Laetitia.
Alors, sur l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne, l'autre problème, c'est que beaucoup de personnes dans l'Union européenne ne souhaitent pas non plus cette adhésion. Donc le sujet est certainement bloqué, probablement pour toujours. Je pense qu'on peut s'interroger aussi sur ce que nous pouvons faire. Alors nos marges de manœuvre diplomatiques, stratégiques sont très limitées, on vient de le dire. Mais je pense que nous avons quand même le devoir, alors je ne parle pas forcément des États, hein, je parle plutôt des intellectuels ou des médias, de montrer quand même notre solidarité, notre soutien à l'égard de la société civile. À mon avis, c'est aussi ce qui se passe en Turquie, c'est quelque chose qui doit nous rappeler que la démocratie est toujours fragile, y compris chez nous. Et la démocratie est fragile parce qu'elle a, à mon avis, elle court deux risques. Il y a le risque de l'illibéralisme, donc le risque de l'oubli de l'état de droit, des contre-pouvoirs. Et puis il y a l'autre risque, qui est le risque de déni de démocratie et donc de déni du souhait de la majorité qui s'exprime dans les urnes. Et il me semble qu'aujourd'hui, l'Occident est aux prises avec ce double danger, il ne sait pas comment y répondre. Parce qu'on passe un peu d'une position à l'autre et j'ai l'impression qu'on ne trouve pas finalement de juste milieu pour arriver à rendre à la démocratie, le démos et le libéralisme compatibles.
C'est peut-être d'autant plus difficile du coup de défendre et de s'opposer aux atteintes à la démocratie qu'en soi-même on n'est pas tout à fait sûr et solide sur ces questions.
Alors bien sûr, et d'autant plus difficile que certaines personnes en France regardent ce qui se passe en Turquie, en Russie et trouvent ça finalement pas si mal qu'un homme fort prenne le pouvoir parce que les choses ont l'air beaucoup plus efficaces. Mais c'est évidemment une erreur et c'est un danger. On aura peut-être l'occasion d'en reparler dans la seconde partie à propos de l'Ukraine, mais on a un devoir moral de défendre ce qui, j'espère, ne sera pas une exception dans l'histoire, parce que il m'arrive d'être très fataliste et de me demander si la démocratie n'est pas un régime exceptionnel qui aura eu une vie de quelques siècles, mais qui est tellement difficile à conserver que qu'il peut prendre l'eau de différentes façons, comme on peut le voir aujourd'hui.
Sylvie Kaufmann.
Oui, alors ce qui est rassurant, pour répondre à Laetitia,
ce qui est rassurant, c'est pas ce que vient de dire Laetitia.
Non, justement, ce qui est rassurant par rapport à ce que vient de dire Laetitia, si vous voulez, c'est justement ces mouvements populaires. Et vous avez ça en Turquie. C'est quand même ce qui se passe en ce moment est très puissant. Hein. On a mentionné les chiffres tout à l'heure. C'est quand même très, très important et très significatif. On va voir ce à quoi ça aboutit. Mais même si on compare avec ce qui s'était passé à Place Taksim, à Gazi, en 2013, à l'époque, l'origine de ce mouvement de protestation, c'était une question d'urbanisation, etc. Là, on est vraiment dans un combat pour la démocratie, pour la compétition électorale libre, etc. Mais il y a d'autres mouvements ailleurs. Il y a en Serbie, il y a en Géorgie. Et ce que je vois mal... Il y a le côté rassurant qui est qu'on a des sociétés civiles qui sont capables de se mobiliser dans des conditions très dangereuses. C'est autre chose d'aller manifester en ce moment en Serbie, à Tbilissi ou en Turquie que de manifester chez nous ou même aux États-Unis où d'ailleurs personne ne manifeste. Là, on a vraiment, je trouve, quelque chose qui montre un attachement viscéral des sociétés à la démocratie et à la liberté. Donc ça, c'est bien. Ce qui est beaucoup moins rassurant, c'est notre incapacité à être solidaire de la part de nos États. Et je crois que la situation actuelle de la sécurité de l'Europe, etc., nos problèmes avec les États-Unis, font que nos gouvernements n'ont pas assez de moyens ou d'attention ou de possibilités de vraiment... parce que tous ces États, que ce soit la Turquie, la Géorgie, la Serbie, sont d'une manière ou d'une autre candidats à rejoindre l'Union européenne à différents degré. Et en réalité, on est incapable de prendre ça en compte et d'aller les aider.
Bon, on va quand même voir si cette solidarité, au moins, elle n'est pas en train de se constituer, de se renforcer au sein de l'Europe et sur les questions de défense.
France Culture, l'esprit public. Hervé Gardette.
Les garanties de sécurité, ce sont... les forces de réassurance que nous pourrions déployer le jour d'après en Ukraine. Elles n'ont pas vocation à être des forces qui se substituent aux armées ukrainiennes. Mais ce seraient des forces de quelques États membres présents, parce qu'il n'y a pas unanimité sur ce point, qui signeraient un soutien dans la durée, une réassurance des Européens et auraient un caractère de dissuasion à l'égard d'une potentielle agression russe.
Le plus fameux des serpents de mer de la construction européenne est-il en train d'accoucher d'une véritable créature, d'une défense européenne dotée d'une industrie et d'une armée commune? On en est encore loin, mais on n'en a sans doute jamais été aussi proche. Jeudi, à l'Élysée, Emmanuel Macron accueillait donc le deuxième sommet de la coalition des volontaires, une trentaine de pays liés à l'Union européenne et à l'OTAN et engagés à soutenir les Ukrainiens face à la Russie. L'occasion pour le président français de défendre son idée d'une force de réassurance susceptible d'être déployée en Ukraine une fois trouvé un accord de paix et selon des modalités qui restent encore difficiles à saisir. Alors, petit rectificatif, il serait plus précis de dire qu'Emmanuel Macron co-accueillait cette coalition, car en la matière, le chef de l'État opère en duo, en mode copilotage avec le Premier ministre britannique, le travailliste Keir Starmer, au pouvoir à Downing Street depuis juillet dernier. Et c'est d'ailleurs à Londres que le premier sommet du genre avait eu lieu au début du mois de mars. Alors un tel attelage peut surprendre, dans la mesure où le Royaume-Uni n'appartient plus à l'Union européenne, mais il se justifie au regard de la spécificité des deux pays. Londres et Paris sont les seules puissances nucléaires du continent européen. Si on exclut bien sûr la Russie de cette zone géographique, une bonne raison d'assumer ensemble le leadership. Comme l'a expliqué Emmanuel Macron, l'objectif n'est pas seulement d'aider l'Ukraine, mais d'assumer, je cite, « notre propre défense ». Et donc, force de cela, nous avons aussi acté, c'est toujours Emmanuel Macron qui parle, de renforcer notre réponse en termes d'architecture de sécurité pour notre continent, c'est-à-dire accroître notre investissement dans nos armées pour dissuader et accroître la coordination entre nos industries pour agir ensemble. En début mars, les Européens avaient déjà donné leur feu vert au plan Réarmer l'Europe, avec à la clé la mobilisation annoncée de quelque 800 milliards d'euros pour le secteur de la défense d'ici 2030 et des engagements budgétaires dans la plupart des pays membres. Alors la défense européenne est-elle en ordre de bataille? On en discute toujours en compagnie de Laetitia Stroche-Bonnard, de Bertrand Badi, de Sylvie Kaufmann et de François Gemène. François Gemène, ce sommet, ce deuxième sommet, cette coalition des volontaires pour l'Ukraine, c'est un pas en avant vers cette défense européenne dont on parle depuis si longtemps?
Ne vendons quand même pas la peau de l'ours avant qu'il ne soit tué. Effectivement, c'est indéniablement un pas en avant et on se rend bien compte que depuis le début, on avait dit que cette guerre en Ukraine avait un côté un peu définitionnel au fond pour l'Union européenne et que ça allait être le moment de se positionner et de se compter. Et Donald Trump a évidemment accéléré ce sentiment. Cela étant... on est encore loin de cette défense européenne. D'abord parce que je dois rappeler que les seuls militaires aujourd'hui à porter un uniforme européen, ce sont les gardes-côtes de l'agence Frontex qui sont censés nous défendre contre les migrants en Méditerranée. Et donc, il y a encore, à mon avis, loin de la coupe aux lèvres jusqu'à ce qu'il y ait d'autres militaires qui portent véritablement un uniforme européen. Ça impliquerait déjà... d'abord qu'il y a une certaine forme d'unanimité entre les 27 sur cette question de la défense à l'Ukraine. Et le président Macron l'a rappelé, il n'y a pas d'unanimité pour le moment sur le type de soutien que l'on veut accorder, ça impliquerait de se mettre d'accord sur la question de la dissuasion nucléaire. Il ne peut pas y avoir 27 doigts sur le bouton nucléaire, à l'évidence. Et puis, ça nécessitera aussi de se mettre d'accord sur l'armement lui-même et sur l'équipement. Or, aujourd'hui, les fournisseurs des 27 armées européennes sont complètement différentes. Un grand nombre de pays européens continuent à se fournir auprès des États-Unis plutôt qu'auprès des industries de défense européennes. On a encore une dizaine de pays qui ont des commandes de F-35 aux États-Unis qu'ils ne semblent pas prêts à annuler. Et certains, comme la Belgique, pensent même à recommander d'autres F-35. Et donc, si on veut vraiment avoir une défense européenne, il faut d'abord avoir une vraie stratégie industrielle de défense européenne et que la commande d'armement soit avant tout européenne. Et là, encore une fois, on en est encore loin.
Il y a un point, semble-t-il, qui a fait l'unanimité, François Gemène, c'est celui de la question des sanctions contre la Russie. Tous les participants, il y avait un consensus pour dire il ne faut surtout pas lever les sanctions, comme le demande Vladimir Poutine, qui a posé ça comme condition pour la mise en place d'un cessez-le-feu en mer Noire.
D'accord, mais là, on est sur une question diplomatique, on n'est pas sur une question de défense. Là, il s'agit simplement de l'attitude à tenir vis-à-vis d'un adversaire, d'un ennemi même, pourrait-on dire. Il ne s'agit pas encore de se mettre d'accord sur comment on va déployer des capacités militaires. Et c'est quand même de ça qu'il s'agit en matière de défense.
Alors, une des pistes qui a été évoquée, Sylvie Kaufmann, c'est cette force de réassurance qui n'est ni une force d'intervention, enfin qui ne serait ni une force d'intervention, ni une force de maintien de la paix. Et j'avoue, alors même le président ukrainien d'ailleurs, Volodymyr Zelensky, a dit on ne sait pas très bien de quoi on parle. Est-ce que vous avez compris un petit peu mieux de quoi il s'agit ?
Non, parce que on reste volontairement dans le flou sur cette question, parce qu'on ne sait pas dans quel contexte on va se retrouver en Ukraine. C'est-à-dire, il y a ces négociations qui sont en cours entre la Russie et les Américains d'un côté, les Ukrainiens et les Américains de l'autre, dont les Européens ne font pas partie. Mais les Européens sont en contact constant avec les Américains et avec les Ukrainiens. Enfin voilà. Donc, mais personne ne sait à l'heure actuelle à quoi ces négociations vont aboutir? Est-ce qu'elles vont même aboutir? On parle d'un cessez-le-feu. Donc, les Américains essayent d'obtenir un cessez-le-feu. On voit bien que les Russes freinent des deux pieds et posent sans arrêt des conditions pour échapper à ce cessez-le-feu tel qu'il est proposé. Enfin bon, mais surtout, les Européens considèrent que à juste titre, les Européens et les Ukrainiens considèrent que ce cessez-le-feu proposé n'est pas la paix, n'est pas la paix juste et durable à laquelle on aspire. Et dans les conditions de laquelle, à ce moment-là, il pourrait y avoir un déploiement européen. Donc on est vraiment très loin d'une définition des circonstances matérielles dans lesquelles cette force de réassurance, entre guillemets, pourrait être amenée à se déployer, et avec quelle participation, dans quel volume, voilà, tout ça. Je crois que ce qui se passe actuellement, ce qui est important dans ce qui se passe, c'est pas tellement est-ce que cette force de réassurance va vraiment être déployée, en quoi elle consiste, combien d'hommes ou de femmes ça concerne, mais c'est la dynamique qui est en train de se mettre en place parmi les Européens. On a eu, en fait, si on reprend un petit peu une focale un peu plus large, on a eu deux tournants ces dernières années. Il y a eu le premier tournant de 2000 pour l'Europe, hein. Le premier tournant de 2022, avec l'invasion à grande échelle le 24 février 2022 de l'Ukraine par la Russie, qui est le tournant vis-à-vis de la Russie. C'est-à-dire les pays européens, ceux qui y croyaient encore, réalisent que la Russie est vraiment une puissance hostile, une puissance d'agression, et donc il va falloir se préparer à y faire face. Mais à ce moment-là, on est toujours avec les Américains. On est dans le cadre d'une OTAN qui marche, avec un président Biden qui prend la défense de l'Ukraine et qui apporte la moitié de l'aide militaire à l'Ukraine. Et donc, tout se passe comme on l'a prévu depuis des décennies. Et puis le deuxième tournant, c'est 2025, le retour de Trump. Et là, on s'aperçoit que non seulement on a la Russie à l'Est qui est une puissance d'agression, mais que maintenant on ne peut plus vraiment compter sur notre principal allié américain, notamment au sein de l'OTAN. Donc il faut prendre en charge la défense de l'Europe. Et c'est là qu'on est avec toutes ces réunions qui se succèdent, ces sommets, ces tentatives de mise en place de coalitions ad hoc, alors coalition de volontaires, leadership franco-britannique, on a plein de formats différents qui essayent de se trouver d'une certaine manière, et ces propositions Alors d'abord, cette impulsion extrêmement forte à la défense, à l'industrie de la défense, parce que ça, c'est la première urgence. On est vraiment dans une course contre la montre pour le réarmement de l'Europe, pour essayer de compenser le départ éventuel des États-Unis. Et puis, comment arriver à prendre en charge cette défense, y compris au sein de l'OTAN ? Sans les Américains.
Ces propositions qui sont faites aujourd'hui par les Européens, Bertrand Badi, c'est-à-dire d'alors force de réassurance pour en cas d'accord de paix. D'un autre côté, on voit Donald Trump, président américain, qui veut la paix. Est-ce que ce sont des, enfin en tout cas qui dit vouloir la paix. Alors ça dépend évidemment quelle paix. Mais est-ce que ces initiatives-là, elles sont un peu complémentaires malgré tout, ou bien est-ce qu'elles sont totalement en concurrence et donc incohérentes les unes avec les autres ?
Elles sont très significatives. Alors je ne sais pas qui a eu la bonne idée de parler de force de réassurance ou de traité de réassurance, mais le choix est particulièrement malheureux parce que le concept avait été inventé par Bismarck, lorsque son système d'alliance était en train de s'effondrer. Vous vous rappelez le traité des trois empereurs et l'entente des trois empereurs, Russie, Autriche-Hongrie et Allemagne. Et c'est quand ça a commencé à ne plus marcher parce que les alignements n'étaient plus clairs, que l'Autriche était en situation de compétition dans les Balkans avec la Russie, que tout ça s'est effondré. Alors Bismarck, pour maintenir son système, a posé des rustines, c'est-à-dire a essayé de rassurer ses deux partenaires en disant « mais de toute façon, on vous lâchera pas ». Bon, ça a été une catastrophe. Pourquoi ? Parce que la réassurance, c'est justement ce que l'on fait lorsque les alignements et les alliances ne sont plus clairs. Alors pourquoi ces alignements ?
Bah, c'est le cas là quand même. Elles sont plus claires, les alliances.
Elles ne sont plus claires, ouais. Oui. C'est ça, c'est ce que je vous dis. Elles ne sont plus claires de tous les points de vue. Sylvie l'a rappelé parce que avec les États-Unis, on ne sait plus très bien ce que le mot alliance veut dire. Mais à l'intérieur de l'Europe, les variantes de postures sont tellement différentes sur cette question russo-ukrainienne et sur la question de la sécurité en Europe que parler d'une seule voix devient pratiquement impossible, qu'utiliser le langage de l'alliance et de l'alignement n'est plus possible. Mais il y a conjoncturellement plein d'éléments qui viennent renforcer ce flou qui appelle cette rustine peu claire de la réassurance. Il y a d'abord le flou du projet de trêve et a fortiori du projet de paix. C'est-à-dire réassurer, mais réassurer face à quoi ? Comment voulez-vous que l'on élabore une stratégie claire et efficace dès lors qu'on ne sait pas quelle est la nature et l'ampleur du défi qui vous est opposé ? Deuxième élément, c'est ce qu'évoquait François tout à l'heure et qui me paraît effectivement très important, je ne sais pas comment on peut parler de défense commune quand on n'a pas une politique étrangère commune. La défense, c'est un instrument. La politique étrangère, c'est la finalité. Bon, cette finalité est en train de disparaître. Troisième élément, un problème de crédibilité. Si vous voulez assurer ou réassurer quelqu'un, il faut que vous soyez crédible. Vous n'allez pas vous adresser à un assureur qui n'est pas crédible. Or, quelle a été la posture de l'Europe lorsque la connivence russo-américaine s'est exprimée au Conseil de sécurité le 24 février 2025 autour d'une résolution scélérate à l'encontre de l'Ukraine puisque niait son droit à l'autodétermination et niait également le principe de l'intégrité territoriale, les Européens se sont abstenus. Alors un assureur qui s'abstient, c'est quand même bizarre, n'est-ce pas ? C'est-à-dire quelle crédibilité de protection peut-on trouver chez quelqu'un qui l'avoue manus, quoi, en quelque sorte, je me lave les mains, je n'ai pas les moyens. Parce que c'est ça le fond du problème. Je n'ai pas la capacité diplomatique de réagir. Puis un tout dernier problème, vous savez, moi, quand on parle de leadership de l'Europe, ça me fait peur. Parce que c'est le meilleur argument pour dissuader les partenaires qui n'ont aucune chance d'être leaders de suivre un leader dont ils ne veulent pas être dépendants. On aime mieux à la rigueur quand on est néerlandais dépendre des États-Unis que de dépendre de la France et de la Grande-Bretagne. Hein. Et ça, il faut quand même voir qu'on joue avec le feu quand on parle toujours de leadership franco-britannique sur la défense européenne.
Ouais, j'ai peut-être quand même vous faire un petit peu peur, Bertrand Badie, parce que c'était justement sur le lien entre la France et le Royaume-Uni et entre l'Union européenne et le Royaume-Uni que je voulais aborder avec vous, Laetitia Strauss-Bonnard, vous qui connaissez bien le Royaume-Uni. Est-ce que une des bonnes nouvelles quand même du moment, ça n'est pas le fait que les Britanniques sont peut-être de retour en Europe à la faveur justement de ces bouleversements géopolitiques?
Tout à fait. Pour ma part, je n'ai jamais cru qu'ils étaient partis, en tout cas d'un point de vue, du point de vue géopolitique ou stratégique, parce que le Brexit ne signifiait pas que le Royaume-Uni partait de l'Europe. Il signifiait qu'il quittait l'Union européenne. Il y a quand même au Royaume-Uni une relation forte avec le continent. Donc c'est une amitié un peu compliquée, qui n'est pas continentale, justement. C'est une amitié où on garde quand même une certaine distance. C'est la Manche. Et c'est une distance aussi politique, une distance juridique. Mais ça n'est pas un éloignement. Et puis, les Britanniques sont très pragmatiques. Voyant que les Américains s'éloignent d'eux, eh bien, ils n'hésitent pas à se rapprocher de nous. Donc, j'y vois une très bonne chose. Mais pour revenir sur l'état de, disons, comment décrire cette situation d'ailleurs d'hésitation, de difficulté à nommer les choses, de difficulté à choisir le véhicule approprié pour construire une défense européenne. J'y vois pour ma part l'expression de la peur, tout simplement. Je pense que nos pays, nos États, nos opinions publiques européennes sont terrorisées. Et c'est plus facile de discuter sans fin sur la question de savoir si la défense doit être commune ou non que d'avouer qu'on a peur. Et pourquoi on a peur? Mais parce que le spectre de la guerre revient en Europe et qu'on n'a pas voulu y croire. Et ça fait quand même des années qu'on ne veut pas y croire. Depuis 2022, on continue à ne pas vouloir y croire. Là, on est un petit peu obligé d'y croire. Je pense qu'il y a une forme de lâcheté aussi dans le fait de devoir de chercher éternellement à discuter pour savoir quel est le bon véhicule. Il faut y aller. On n'a pas le choix. Et il faudra y aller peut-être de façon pragmatique, peut-être insatisfaisante au départ, peut-être avec des pays qui décident de s'allier. Ce sera forcément pas très bien conçu au départ, mais je pense qu'il faut le faire. Et en la matière, alors je ne suis pas du tout macroniste et je ne perds pas une occasion de critiquer le président de la République, mais là, je dois dire que je trouve ce qu'il fait aujourd'hui en matière de défense, enfin ce qu'il essaie de construire en termes de projet de défense européenne, je trouve ça admirable. Et je pense que la France peut jouer un grand rôle au sein de cette défense européenne.
Est-ce qu'on ne joue pas justement, vous apporter un peu de contradiction, Laetitia Strauss-Bonnard, mais un peu trop justement sur cette peur aujourd'hui. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme d'instrumentalisation de la peur? C'est-à-dire il y a aussi, on entend des voix, alors notamment en France, mais dans d'autres pays, qui disent, les chars russes ne vont pas arriver sur les Champs-Élysées avant un moment.
Oui, mais des gens ont dit cela aussi pendant la Seconde Guerre mondiale, quand on nous expliquait que tout cela était bien lointain. Vous savez, si les Russes se sont arrêtés, c'est parce qu'ils ont rencontré en face d'eux une autre armée qui n'était pas leur ennemie, mais qui était l'armée américaine, les alliés du côté occidental. Et mais peut-être serait-il allé plus loin. Et quand j'entends des gens dire oui, bon, alors peut-être la Pologne, mais la Pologne, bon, ça fait partie aussi de la zone d'influence de la Russie. Moi, je trouve ça alarmant. Enfin, les Polonais sont nos alliés depuis plus de deux siècles. Je vois bien que l'opinion publique européenne n'est pas très enthousiaste à l'idée que, par exemple, il faudrait peut-être envoyer des troupes. Mais enfin, si nous tenons à notre démocratie, justement, à nos libertés, nous avons le devoir d'aider un pays qui est de notre côté, qui veut faire partie de l'Occident, l'Ukraine, et qui souffre énormément. Mais je crois que la difficulté, c'est que nous avons vécu pendant des années, en oubliant l'existence de la guerre et des conflits, et toute la mentalité en fait de la société occidentale aujourd'hui est orientée vers l'individu et le présent. C'est-à-dire tout est orienté vers la satisfaction de nos désirs immédiats, la gratification immédiate. On n'investit plus vraiment dans l'avenir. Or, le spectre de la guerre nous invite à investir dans et le commun et l'avenir. Donc c'est un changement de mentalité absolument gigantesque que l'on doit opérer et qui est très difficile à opérer. Et je terminerai juste par un point. La difficulté, c'est que le président de la République n'a pas d'enfant. Et c'est très difficile de dire à un pays, vous allez devoir investir davantage dans la défense. Peut-être qu'un jour, on ne sait jamais, vos enfants devront faire le service militaire, vos enfants devront aller au front, alors que lui-même n'en a pas. Et je pense que ça, je ne le critique pas pour cela, mais je constate juste que c'est peut-être... Alors, Philippe Pétain n'avait pas d'enfant non plus, mais c'est très difficile quand vous avez un dirigeant qui finalement veut vous engager vers la potentialité même d'un conflit, qui lui-même ne sera pas prêt à sacrifier ce qu'il a de plus cher potentiellement. Donc ça, ce sont des non-dits, mais à mon avis, tout cela plane sur la conversation actuelle.
Tout le monde veut réagir. Je commence avec Bertrand Badi.
Oui, moi je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il y a une menace russe et que cette menace russe, c'est pas de savoir s'ils vont traverser le Rhin ou pas, c'est effectivement la menace sur la sécurité globale de l'Europe. Bon, mais moi ce qui me gêne en revanche, c'est que il manque deux éléments essentiels à une réaction à cette attitude poutinienne. La première, c'est d'investiguer les menaces et de savoir comment y répondre. Le réarmement de l'Europe, personne ne sait de quoi il s'agit, c'est-à-dire quelle est sa finalité. Est-ce qu'il faudra aller sur le sol ukrainien? Est-ce qu'il faudra être vigilant à nos frontières? Est-ce qu'il faudra empêcher les cyberattaques? Est-ce qu'il faudra empêcher les attaques sur les câbles qui sont en mer Baltique? Est-ce qu'il s'agit de contenir une propagande absolument ahurissante qui est développé par le Kremlin, comment une politique de défense peut être crédible si on n'en connaît même pas les scénarios? Moi, j'ai jamais vu ça, hein, dans l'histoire des relations internationales, une telle occultation de la réalité du concret de ces menaces. Et le deuxième élément, c'est que qui me frappe aussi énormément, c'est que on saute sur sa chaise en disant menace, menace, menace, n'est-ce pas? Mais personne n'essaye aujourd'hui, ça aussi c'est de l'inédit, de penser ce que pourrait être une paix en Europe, un régime de paix en Europe. Une défense, une politique de défense est crédible si elle est équilibrée par une proposition de paix. Et cette proposition de paix, en fait, depuis la chute du mur, elle est absente de façon récurrente. Et donc, elle décrédibilise tout ce discours sur la défense. Quand vous n'arrêtez pas de dire vous menacez, vous menacez, vous menacez, mais que vous n'êtes pas en mesure ni d'éclairer la nature de cette menace, ni de dire le régime alternatif de paix qui pourrait effectivement éteindre cette menace, vous admirez, moi j'admire pas. Hein,
Sylvie Kaufmann.
Alors, je dois dire, je suis un peu perplexe par rapport à ce que vient de dire Bertrand, parce que on n'investigue pas la menace russe, mais on passe notre temps à faire ça. Je veux dire, on sait en quoi elle consiste aujourd'hui, cette menace russe. On sait ce qui nous menace. On sait ce que c'est que la guerre hybride. Oui, mais vous dites, il y a un manque d'investigation de la menace russe. Je suis désolée, on sait vraiment ce que c'est. Et on est en train d'essayer de s'organiser pour justement y faire face. La proposition de paix, qui conteste la paix en Europe en ce moment, c'est bien la Russie. Donc c'est assez difficile en ce moment de monter.
Personne n'en parle de paix. Personne n'en parle.
Notre temps. Non, enfin bon, bref. Non.
C'est pas bref.
Comment voulez-vous monter un scénario de paix à l'heure actuelle avec une puissance sur le continent européen, une puissance nucléaire qui est censée garantir, co-garantir l'ordre mondial, etc. Avec, je reviens pas sur toutes ces questions du Conseil de sécurité et tout, et qui envahit un pays, qui viole les frontières, qui remet tout en cause. On n'est pas à ce stade-là de présenter des scénarios de paix. Il faut déjà pouvoir résister et repousser ces agressions. Deuxième chose sur le rôle de l'Europe. Moi, je suis pas du tout d'accord non plus avec Bertrand sur ce sujet-là. L'Europe, et elle n'est pas en ordre de bataille actuellement, c'est votre question initiale, Hervé, mais il y a un vrai sursaut européen, il y a un vrai réveil européen. L'Europe se trouve dans une situation où on vient de lui retirer le tapis sous les pieds, ce tapis c'est l'OTAN. Il y a ce cadre de paix, de sécurité qui s'effondre. Elle ne peut pas, du jour au lendemain, l'Europe consiste en même plus de 27 États, du jour au lendemain, se mettre en ordre de bataille et dire très bien, l'OTAN gouvernement n'existe plus, alors que toute sa sécurité est fondée là-dessus, on se débrouille autrement. Non, il faut un peu de temps pour s'organiser. Et je pense que s'il y a une défense européenne, ça sera pas, l'Union européenne ne sera pas le cadre de cette défense européenne. Elle n'est pas faite pour ça, l'Union européenne. Donc elle voit, on voit qu'elle met en place des mécanismes de financement, des mécanismes de coordination, des mécanismes de concertation, etc. Mais la défense européenne, ça sera pas effectivement l'armée européenne de l'Union européenne. Non, c'est absolument impossible. Ce qui, en revanche, ce qui est en train d'essayer de se mettre en place, c'est peut-être agir, monter le pilier européen de l'OTAN, c'est-à-dire se servir des structures de l'OTAN sans les, éventuellement sans les États-Unis, mettre sur pied des nouvelles coalitions avec le Royaume-Uni, la Norvège, peut-être la Turquie d'ailleurs, on verra. Mais voilà, et tout ça est en train de se mettre en place, mais ça peut pas se faire du jour au lendemain. Et je trouve qu'il y a des efforts qui sont importants, qui sont en train d'être faits.
Et dans cette divergence entre Sylvie Kaufmann et Bertrand Badi, je demande l'arbitrage de François Jemaine.
Je suis pas sûr de pouvoir fournir un arbitrage, mais je pense qu'il y a en réalité deux sujets qui sont en réalité différents. Il y a d'abord la menace russe, qui est évidemment immédiate et par rapport à laquelle il faut se préparer. Et là, je pense que, hélas, les idées de kit de survie, notamment de la Commission européenne, vont surtout contribuer à installer une forme de peur parmi les populations. Et puis, l'autre sujet, c'est le sujet de fond de la défense européenne qui va prendre du temps. Et à mon avis, ce sujet, il est justifié par la révolution copernicienne qui est que nous nous sommes depuis 80 ans appuyés sur les États-Unis pour cela. Et nous faisons aujourd'hui le constat qu'on ne peut plus compter sur les États-Unis pour cela. Et on faut faire le même constat sur des questions de politique énergétique, sur des questions de politique innovation. C'est le moment pour l'Europe de se prendre en main. Il faut traiter d'un côté la menace russe, mais il faut aussi développer une défense européenne propre, simplement parce que nous ne pouvons plus compter sur les États-Unis, parce que d'une certaine manière, le concept d'Occident a volé en éclats.
Mais vous dites il faut, est-ce que vous avez l'impression qu'on agit justement, enfin que les Européens sont en train de commencer à avoir...
Doucement, mais il y a encore beaucoup d'atermoiements, beaucoup d'hésitations. Et je pense que, comme pour l'euro, nous n'aurons pas d'unanimité sur cette question et que donc il faut privilégier des logiques de coalition, de volontaires. Ça, je pense que c'est plutôt une bonne idée d'Emmanuel Macron et que d'autres potentiellement se rallieront à cette défense européenne quand ils y verront l'intérêt, comme on l'a fait pour l'euro.
Bertrand Badi.
Oui, Sylvie Kaufmann disait que l'OTAN était le cadre paix de l'Europe et qu'elle en a été privée. Pas du tout. L'OTAN, c'était au mieux un instrument. Non, vous avez dit de paix. Vous avez dit de paix. C'était au mieux un instrument d'endiguement de la menace soviétique pendant la guerre froide. Au mieux. Mais la paix, c'est pas ça. La paix, c'est quelque chose de positif. C'est quelque chose qui permet d'éviter les tensions. Or, le mur est tombé en 1989, la bipolarité a pris fin en 1989, et depuis 1989, on n'a fait aucun effort, on n'a pris aucune initiative pour repenser un cadre de sécurité européenne, un véritable cadre de sécurité européenne. Et le problème dont nous souffrons, il vient de là. Alors, je suis
c'était
tout à fait d'accord
avec... C'était censé être fait
avec...
par l'OTAN, ça.
Comment ?
Ce cadre de sécurité, c'était censé être assuré par l'OTAN.
Mais comment voulez-vous, Hervé Gardette, crédibiliser un instrument qui est issu de la bipolarité pour gérer le temps post-bipolaire ? Et c'est ça la grande erreur. Il fallait réinventer ce qu'est la paix dans un système post-bipolaire. Et ça, nous n'avons pas fait, ce qui a permis de faire pousser Poutine et de l'amener là où il est. Alors, je suis d'accord qu'il faut distinguer entre le court terme et le moyen terme. Au court terme, il y a un péril très grand d'agression de la Russie et de Poutine singulièrement, mais cela ne pourra être réellement dépassé que si on met en place un système à moyen terme qui permette de construire une vraie sécurité favorable pour tout le monde. Et c'est ça la paix. Si maintenant on gère le court terme en ne se prononçant pas sur ce que pourrait être l'architecture à moyen terme, eh ben, on va vers un refus net et une escalade du côté de la Russie. Je pense que Poutine et Netanyahou, de ce point de vue-là, se ressemblent parfaitement.
Ah ben, je vous propose de réfléchir prochainement à ce que pourrait être... Oui, François Jemaine, dernier mot.
Rectificatif, Hervé. Si vous permettez, plus tôt dans l'émission, j'ai signalé que Peter Magyar, le principal opposant de Viktor Orban, était aussi le maire de Budapest. Il se trouve qu'il est bien le principal opposant à Orban, mais il n'est pas le maire de Budapest, c'est M. Karaksony. Donc, Autant pour moi, petit rectificatif, que nos auditeurs les plus attentifs auront fait de même.
Merci beaucoup pour ce fact-checking en quasi-direct. Merci à tous les quatre, Laetitia Stroche-Bonnard, Sylvie Kaufmann, François Jomène et Bertrand Badi pour cette émission préparée comme chaque semaine par Anne-Claire Bazin. À la réalisation aujourd'hui, il y avait Anna Olvek. À la prise de son, Élise Leu. À dimanche prochain.